Avec les tops, il est 8h. C'est le journal de Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour à tous. Déjà plus de 200 km de bouchons ce matin sur les routes. Journée classée noire dans le sens des départs. Mais ça ne freine plus les propriétaires de voitures électriques qui trouvent désormais davantage de bornes de recharge sur leur trajet. Reportage dans un instant. Le ton monte encore entre Washington et Moscou. Donald Trump ordonne le déploiement de 2 sous-marins nucléaires. Il dit réagir à des propos de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Les 4 ans de la PMA pour toutes avec encore des difficultés pour certaines femmes seules qui souhaitent avoir un enfant. Et puis l'avant-dernière étape, Amélie, du Tour de France Femmes.
Le Tour de France Femmes marqué hier par la 2e victoire d'étape d'affilée pour la Bretonne Maëva Skiban. Un exploit, on parle du succès de la course, succès sportif et populaire ce matin avec sa directrice Marion Rousse, notre journaliste Fanny Lechevestrier qui a suivi tous les tours et le manager de la FDJ Suez Stéphane Delcourt. Si vous voulez poser vos questions, 01 45 24 7000 ou l'appli Radio France.
France Inter. La circulation extrêmement difficile sur l'ensemble des grands axes. Prévision de bison futé pour ce samedi, classé noir, donc dans le sens des départs. Des bouchons déjà ce matin, notamment dans la vallée du Rhône, en Île-de-France et en direction de la côte atlantique. Mais pas de quoi décourager certains conducteurs, prêts désormais à braver ce traditionnel chassé-croisé en voiture électrique, puisqu'ils n'ont plus peur de manquer de bornes pour recharger leur véhicule. Reportage grand format de Marie Maheu.
Il ne lui faut que quelques minutes pour sortir son téléphone et indiquer son trajet.
En Bretagne pour ce week-end, donc à peu près 500 km.
Et depuis son village de l'Essonne, Christophe trouve la borne qu'il cherche pour la pause midi hors du réseau autoroutier.
Vers Alençon par exemple, j'ai trouvé une station et à proximité de laquelle il y a du McDonald's, du Burger King pour les enfants, je pense qu'ils seront très contents.
Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à embarquer tongs et Pareo dans le coffre d'une voiture électrique. Rassuré par les 170 000 points de recharge ouverts au public selon Enedis, en ville, au pied des supermarchés et sur toutes les aires de service des autoroutes. À celle de Limours, Janvry, sur la 10, près de Paris, les 15 bornes de charge sont quasiment toutes occupées.
Bonjour monsieur, vous payez par carte bancaire ?
Noélie fait partie des bornistes déployés en renfort cet été pour aider les novices de la recharge. Car le paiement laisse parfois perplexe, tant les applications et cartes d'abonnement sont nombreuses suivant les stations. Noélie aide Cathy qui part à Saint-Brieuc.
C'est la première fois que je pars avec cette voiture pour faire autant de trajets. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va être une habitude. Hein.
Le prix, lui, varie d'une borne à l'autre, ce que dénoncent des associations de consommateurs. Mais Julien n'en démord pas.
Si on fait des recharges à la maison, qu'on fait entre 200 et 300 km jour au grand max, c'est très économique. On doit être à 5-6 euros du 100 km et si on charge en station, on va être une dizaine, entre 10 et 12 euros des 100 km. Donc ce qui est plus intéressant qu'une essence.
La recharge est rapide.
Là, je repars d'ici 10-15 minutes à peu près.
Juste le temps de prendre un café, direction les vacances.
La voiture électrique ou le train, puisque la SNCF attend près d'1 million de voyageurs dans les gares ce week-end.
Donald Trump, lui, il préfère les sous-marins nucléaires.
Oui, les 2 sous-marins nucléaires que le président américain a ordonné de positionner dans les zones appropriées, sans donner davantage de détails. Il dit répondre aux commentaires provocateurs de l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, sans préciser les propos mis en cause. Une nouvelle escalade donc avec la Russie qui poursuit, elle, ses attaques de drones contre l'Ukraine. Elle n'en a jamais autant envoyé que pendant le mois de juillet. Et cette nuit, encore 3 personnes ont été tuées dans les régions de Rostov, Penza et Samara. Autant dire qu'en plus de 3 ans de conflit, la tactique de Moscou a radicalement changé. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Au début de la guerre, à grande échelle, les Russes recouraient de façon massive à leur stock datant de l'ère soviétique. Mais c'est désormais terminé, hein, d'après une enquête menée par le Financial Times. Ces stocks, notamment des chars datant de l'URSS, sont épuisés.
Oui, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, des images satellites montraient des dépôts militaires russes avec de longues files de véhicules, des chars hérités de la guerre froide, voire parfois même de la Seconde Guerre mondiale. Certains ont été remis en état grâce aux pièces détachées des autres. Mais d'après l'Institut Kiev School of Economics, le flux régulier qui était auparavant observé de ces entrepôts vers la ligne de front s'est tari. Mais attention, préviennent ces experts, entre-temps Moscou, grâce à son effort de guerre, guerre, est en train de considérablement moderniser ses équipements.
Et ça rend justement à Virginie la Russie de plus en plus dépendante des approvisionnements étrangers, notamment asiatiques.
Si la Chine ne fournit pas directement d'armes à la Russie, Pékin est devenu le principal fournisseur de l'industrie de défense russe, avec notamment des composants électroniques utilisés pour les drones. Et d'après le renseignement militaire ukrainien, ce sont 40% des munitions utilisées par l'armée russe qui sont désormais fournies par la Corée du Nord. D'après des experts, ces munitions fournies par Pyongyang permettraient en ce moment à Moscou de maintenir sa force de frappe le long de la ligne de front avec l'Ukraine, tout en lui permettant de renouveler des stocks de munitions russes, cette fois de meilleure qualité, en prévision, à terme, d'un éventuel conflit impliquant l'OTAN.
Les précisions de Virginie Pironon. Dans ce contexte, Steve Witkoff doit rencontrer Vladimir Poutine aujourd'hui. L'émissaire américain qui était en déplacement dans la bande de Gaza et qui a promis davantage d'aide humanitaire. La France a d'ailleurs conduit hier une première opération de largage de vivres. Dans le sud de la Syrie, des centaines d'habitants de Soueida ont manifesté hier pour réclamer le retrait des troupes gouvernementales et la fin d'un blocus qui leur serait selon eux imposé. Un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis presque deux semaines après des affrontements intercommunautaires, mais la situation reste tendue et l'accès à la zone difficile. L'aide qui arrive est encore insuffisante par rapport aux besoins. C'est ce qu'a pu constater sur place le comité international de la Croix-Rouge, contacté par Nathanaël Charbonnier.
Stéphane Sakalian est le chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge. Il rentre tout juste de cette zone instable et son constat est sans appel. La population manque de tout.
Il y a des besoins en nourriture, il y a des besoins en eau, il y a des besoins en médicaments. Et ça, c'est justement ce que les convois humanitaires qui ont commencé et qui, de mon point de vue, doivent être renforcés au cours des prochains jours, peuvent apporter.
Des besoins importants auxquels on peut ajouter d'autres attentes, comme le retour de l'électricité, des services publics et, d'une façon générale, d'un besoin de sécurité.
Il faut que les gens puissent, à un moment, estimer que la situation est à nouveau rétablie en matière de maintien de l'ordre et de sécurité. Il va falloir aussi qu'il y ait un minimum de confiance entre les différents protagonistes de cette crise qui puisse être progressivement restaurée.
Mais une fois ce constat humanitaire dressé, reste l'aspect politique, avec un conflit qui est loin d'être réglé sur le fond, estime Stéphane Sakalian.
Des deux côtés, si j'ose dire, nous avons des gens qui ont soit disparu, soit qui ont été arrêtés. Et là, le CICR, nous nous sommes mis à disposition des différentes parties pour éventuellement faciliter les libérations.
Et ce sont plus de 370 000 personnes qui vivent dans cette région, dont près de 70 000 uniquement dans la ville de Soueida.
Nathanaël Charbonnier.
8h07, la suite de votre journal, Clotilde Dumé. C'est une date que des milliers de femmes n'oublient pas.
Le 2 août 2021, il y a donc tout juste 4 ans, date de la promulgation de la 4e version de la loi de bioéthique. Elle a permis d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, mais aussi aux femmes seules. Ces mamans solo qui représentent désormais environ 10% des demandes de PMA en France. La tendance prend de l'ampleur et pourtant, le parcours de ces femmes jusqu'à l'accouchement est encore souvent semé d'embûches, Boris Loumagne.
Marilyn est dans sa petite bulle de bonheur, nous dit-elle.
Je suis très contente, c'est une très belle surprise.
Cette graphiste parisienne, célibataire, vient d'accoucher d'une petite fille en mai dernier. Un heureux événement qui n'aurait jamais été possible sans la loi bioéthique de 2021, puisqu'avant cette date, les femmes seules devaient se rendre à l'étranger pour suivre un processus long et coûteux.
Je ne sais pas si j'aurais été capable d'aller à l'étranger. Ça m'aurait mis beaucoup de freins. Je suis vraiment très contente que la loi en France ait passé.
Alors Marilyn a effectué sa PMA à l'hôpital Tenon, à Paris, où elle a été très bien accompagnée. Mais ce n'est pas le cas partout. Et parfois, le regard des personnels de santé sur ces femmes n'est pas toujours bienveillant, d'après les témoignages recueillis par Noël Bidot, qui est membre de l'association Maman Solo.
On leur fait sentir que parfois elles prennent la place de couples stériles. Par exemple, on a des personnes jeunes à qui on dit « mais c'est pas encore le moment pour vous, ça va être « vous ne pouvez pas accéder à la PMA parce que vous êtes actuellement employé en CDD ». Alors que c'est quelque chose qu'on ne reprochera pas à un couple hétérosexuel, par exemple. Nous, on a l'impression que dans certains centres, il y a quand même une recherche du prétexte pour refuser les parcours.
Voilà pourquoi, en cas de situation possiblement discriminatoire, l'association appelle ces femmes à se tourner vers les services de médiation des hôpitaux.
Boris Loumagne. À l'avant-dernière étape cet après-midi pour les coureuses du Tour de France avec une arrivée au col de la Madeleine à 2000 mètres d'altitude. Vous allez y revenir, Amélie, dans quelques minutes dans le grand entretien avec vos invités. Puis la dernière étape de notre série sur les métiers de la décarbonation. Depuis lundi, on parle sur France Inter des professions liées à la prise de conscience climatique. Alors, qu'en est-il de la création artistique? Un bilan carbone a été présenté début juillet par le ministère de la Culture lors du Festival d'Avignon. Art visuel, spectacle vivant, école d'art, en tout le secteur représente un peu plus d'1% de l'empreinte carbone de la France, soit deux fois plus que le trafic aérien intérieur. Alors pour limiter ces effets, des initiatives se mettent en place, notamment pour recycler des décors. Reportage de Linda Rousseau à la ressourcerie du cinéma à Montreuil, près de Paris.
Ici, j'ai plein de tableaux. Regardez, j'ai même des reproductions du Louvre.
C'est dans un hangar de plus de 1000 mètres carrés dans la banlieue est parisienne que sont stockés toutes sortes de décors de cinéma et de théâtre. Chaque recoin cache des trésors. Anne Taverne travaille depuis 2 ans à la ressourcerie du cinéma. Elle oriente les décorateurs qui louent du matériel pendant leur période de tournage.
Mon rôle, c'est principalement d'accueillir des clients qui cherchent à faire un décor d'appartement, d'hôpital, de ferme, puis les amener à penser parfois en design inversé, c'est-à-dire à partir un peu aussi de ce qu'on trouve pour refabriquer leur décor.
Car cette industrie pollue énormément. Chaque film génère en moyenne 15 tonnes de déchets. Ici, l'idée, c'est de récupérer un maximum de feuilles décor, ces grands panneaux en bois qui servent à construire de faux murs dans les studios de cinéma ou pour les pièces de théâtre.
Ça, c'est une feuille décor, répertoire, lisse, propre.
Depuis 4 ans, la ressourcerie du cinéma a déjà récolté 300 tonnes de déchets.
Vous voyez un petit peu le bois qui est jeté, c'est fou.
Voilà pour ce reportage de Linda Rousseau.
Et c'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde. On lève les yeux vers le ciel pour la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Magali Rochereau, Mistral et Tramontane, toujours présents dans le sud du pays.
Oui, Amélie, avec le risque de feu qui les accompagne, ils atteignent 60 km par heure, en particulier dans la vallée du Rhône et autour du littoral méditerranéen, laissant la place au soleil de régner sur toute la journée, pendant que des averses circulent déjà près de la Belgique sur le flanc nord-est du pays, et que le ciel est chargé le long des frontières de l'Est jusqu'aux Pyrénées, où les pluies se font plus rares. Côté ouest, le vent de nord-ouest balaye le Pas-de-Calais et au thermomètre, votre réveil est frais. 14 degrés à Arras et 11 degrés relevés à Quimper comme à Angers.
Et cet après-midi, le temps est beau à l'ouest du pays.
Oui, sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, le soleil se découvre, tandis que la perturbation se maintient sur le nord-est, provoquant quelques orages au-dessus du Jura, mais en allant vers l'Île-de-France, les averses s'estompent. Côté température, les maximales sont bien modestes, de 20 à 25 degrés sur la moitié nord, 20 à Charleville-Mézières comme à Boulogne-sur-Mer, 21 à Dunkerque, 22 à Isigny-sur-Mer, 23 à Brest et à Rouen et 26 degrés dans la capitale. Elle reste stationnaire dans le sud, 24 degrés à Biarritz, 25 à Limoges, 27 à Brive-la-Gaillarde, 28 à Toulouse, plus de 30 degrés sur l'ensemble du golfe du Lion, 31 à Perpignan comme à Montpellier et jusqu'à 32 à Bastia en Corse.
Merci Magali Rochereau.
Cet été, faites-vous des films sur France Inter.
Avec Alain Delon.
Samedi 10h, Laurent Delmas.
Alain Delon, c'est Rocco, le samouraï, Monsieur Klein ou Jules César.
César a tout réussi, tout conquis.
C'est 80 films, des chefs-d'œuvre ou des nanars à oublier.
Je suis un accident.
À travers des archives, des extraits de films et de nombreux témoignages inédits, Delon se raconte lui-même.
Delon par Delon.
C'est tous les samedis à partir de 10h sur France Inter.
Et toute la série en podcast sur l'application Radio France.
Il est 8h13, dans un instant ce sera le grand entretien avec la directrice du Tour de France Femmes, Marion Roux, et le patron de l'équipe FDJ Suez, Stéphane Delcourt. Mais tout de suite, la chanteuse Joy Crooks en playlist d'été sur Inter avec Perfect Crime.
Late night on smoke, pistols at dawn. Last time the bullet hit before my gun was drawn. You stripped my guard down, man, I can't believe. God forbid I choose my wants over my needs, but I wanna tear into another love. I wanna dare myself to crash into us. Think I was scared to take more than a touch. I'm a bad, bad loser. I'ma stay close to you. You don't even know me, do you? I'm a
I'm gonna mix love into sex and suffer no side effects. I pour myself into you, still keep a glass of me too. I get away with it, I get away with it. They'll be talking about me after I die.
Joy Crooks en tournée européenne, elle fera étape pour une unique date française, salle Pleyel à Paris, ce sera le 2 décembre prochain. France Inter, il est 8h16.
France Inter, Amélie Perrier, le 6-9.
Un final en beauté dans les Alpes. Le Tour de France Femmes entre dans son dernier week-end. En tout, les coureuses auront traversé le pays d'ouest en est en 9 étapes et 1168 kilomètres. Juste après les hommes et d'année en année, leur tour est devenu aussi passionnant. En tout cas, on va en discuter ce matin avec sa patronne. Bonjour Marion Rousse.
Bonjour, bonjour à tous.
Directrice du Tour de France Femmes, avec notre consultante également. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour à tous.
Vous suivez le cyclisme et les tours, hommes et femmes, depuis des années. Marion Rousse d'abord, dites-nous, le pari sportif, il est gagné, ce Tour de France Femmes, il a autant d'intérêt sportif que celui des hommes?
Je crois que sur plusieurs plans, il est plus que réussi. C'est vrai que sur la première édition, on a dû un petit peu s'imposer dans le quotidien des gens. Et dès la première édition, les gens, en retour, nous ont adoptés. Que ce soit un succès populaire sur le bord de route qui est juste incroyable. Et je parle toujours sous couvert de Christian Prudhomme, qui est sur la course depuis quelques jours et qui me dit qu'il ne voit plus de différence entre le Tour Homme et le Tour de France Femme avec Zwift. Un succès également au niveau des audiences qui fonctionne très très bien, et puis au niveau sportif, c'est juste incroyable, avec deux victoires françaises, avec quatre françaises dans le top 10, c'est juste incroyable.
Parlons-en ces derniers jours, on est porté par une française, Maëva Skiban, deux victoires d'affilée pour la Finistérienne, c'est incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ça.
Non, c'est fou, surtout qu'elle a été victime malheureusement d'un accident au mois de mai, donc sa participation n'était pas certaine. Et puis elle est jeune, Maëva Skiban, elle n'a que 23 ans et je crois qu'elle a pris une confiance en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Même hier, pour tout vous dire, j'étais avec elle au protocole et je lui ai dit, mais Maëva, est-ce que tu imagines un jour, pourquoi pas, viser le classement général? Parce que vu comment elle est très forte en montagne, elle descend bien, elle est très complète. Mais elle m'a répondu qu'elle prenait tellement de plaisir d'être à l'attaque qu'elle ne pensait pas à ça tout de suite. Et je la comprends.
Elle a partagé hier le podium avec une compatriote, Cédrine Kerbaol. Jeudi, c'était avec Juliette Labousse. Là, franchement, on est gâtés côté français. Je ne parle même pas de Pauline Ferrand-Prévot. C'est ça qui porte aussi la course et c'est les performances de nos Françaises.
Ouais, évidemment. Et puis, on a besoin de championnes qui puissent créer des vocations pour les petites filles, en fait, qui sont présentes sur le bord des routes. Et il n'y a pas meilleur exemple que nos championnes et championnes françaises qui nous montrent l'exemple sur ces routes du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Maëva Skiban, mais Juliette Labousse marche très fort. Cédrine Kerbaol également hier a pris la deuxième place. On a quatre françaises dans le top 10. C'est vraiment génial ce qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, avec l'étape Rennes, on aura peut-être un aperçu un peu plus concret de ce qu'est la forme des favorites, mais on se régale vraiment, et puis les courses sont folles, ça roule très très vite, on a eu des étapes à plus de 44 km/h de moyenne. S'il y avait encore des gens qui se demandaient si c'était cohérent de regarder du sport féminin, du cyclisme féminin, ils ont eu la réponse.
Et juste pour revenir sur les Françaises, là aujourd'hui elles font mieux que les Français, que les hommes dans le Tour de France, parce que là franchement on est gâtés quoi, elles sont en haut du podium.
Ouais. On est gâtés. Après, les Français ont fait également un beau tour de France par Épeintre qui a gagné au Mont Ventoux, Kevin Vauclin, Jordan Jégat qui ont fait un top 10. Donc, voilà, la génération des Français et des Françaises est excellente.
Vous êtes sympa. Avec nos confrères. Fanny, vous confirmez ce que dit Marion Roux sur le bord de la route. Ce que vous voyez, c'est vraiment une ferveur populaire. Enfin, il y a du public qui est là pour accueillir les coureuses, pour applaudir les coureuses et cyclistes.
Alors, il y en avait déjà avant, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, on a passé un cap et dès le début. Et je pense qu'avoir fait le grand départ du Tour de France Femmes du côté de Vannes en Bretagne, c'était une riche idée. Parce que oui, on le savait. Là, on était sûr qu'il y avait du monde parce que c'est une terre de vélo, parce que les gens sont habitués à aller voir des petites courses, qu'elles soient masculines ou féminines, au bord des routes. Et je pense que ça a donné envie aussi aux autres. Et puis, bien sûr, il y avait le tracé qui était super, mais je pense que ça a donné envie au reste des Français de se dire, moi aussi, je vais être de la fête. Et on a vu énormément de monde. Quand on repère le parcours, juste avant, le matin, il y a déjà du monde dans les villages, il y a déjà tout est décoré. Et c'est vrai qu'il n'y a plus trop de différence avec les hommes. Il y a du monde partout. Hier, c'était de la folie, du côté de Chambéry, il y avait vraiment des rangées de spectateurs et c'est super quoi. Voilà, les gens ils viennent voir du vélo en fait.
Vous dites Fanny, le tracé il est super. En quoi il est super ? C'est 9 étapes de la Bretagne aux Alpes. Pourquoi ce tracé il a bien marché ?
Alors, sans faire offense à Marion Roux, c'était aussi comme ça au début. On construisait au tout début, la première édition, notamment du Tour de France, on construisait le tracé en disant on va mettre les difficultés à la fin parce que je pense qu'il y avait encore un peloton qui était assez déséquilibré et donc on montait crescendo. Et là, on a eu un Tour de France, comme chez les hommes, avec dès le début des bosses qui créent du spectacle, des étapes courtes, des étapes longues. C'était hyper varié et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui plaît aux spectateurs et aux téléspectateurs. C'est des parcours comme ça, avec des bosses où on peut s'affirmer. C'est ce qu'on a vu aussi avec Maëva Skibor en Auvergne notamment.
Ouais, on se passionne aujourd'hui donc pour les performances vraiment sportives de ces grandes championnes. Ce matin, c'est la Mauricienne Kim Lecourt qui a le maillot jaune sur les épaules. Elle est talonnée au classement général par donc Pauline Ferrand-Prévot. Sur la troisième marche pour l'instant, la tenante du titre, la Polonaise Kasia Nevia-Doma. Autre favorite, la Néerlandaise Demi Vollering, elle est quatrième. Et toutes, elles se tiennent en 30 secondes. C'est super serré, Marion Roux.
Ouais, c'est juste incroyable.
Comment vous l'expliquez que ce soit
scénario
aussi serré
de l'année dernière ?
Ouais.
Alors déjà, on se souvient tous du scénario de l'année dernière qui s'est joué à 4 petites secondes entre Nea Dema et Vollering au sommet de l'Alpe d'Huez. Comment je l'explique ? Un peu comme Fanny vous l'a expliqué, c'est vrai que en 4 ans, le niveau a tellement augmenté et de plus en plus homogène. Donc on a pu créer un parcours, c'est vrai, qui était plus dur que les années précédentes parce que justement, on savait qu'on allait pouvoir garder un suspense jusqu'au bout, même en mettant des montagnes, parce que quand on part de Clermont-Ferrand pour arriver à Ambert, c'est de la montagne. Et pourtant, les filles, elles ont un niveau resserré. On parle des 4 premières, mais les 10 premières au classement général se tiennent en 1 minute 30, ce qui est assez exceptionnel. Ouais.
Et donc, on va terminer avec le col de la Madeleine. C'est quand même un sacré morceau. Vous n'avez pas vu gros, là ?
Non. Les filles, elles sont capables, les championnes sont capables de le grimper. Puis on aime bien les beaux clins d'œil entre le Tour Homme et le Tour de France Femme avec Zwift. Ça ne vous a pas échappé qu'on est passé au col de la Madeleine avec les hommes, du même côté, par Saint-François-Longchamp. Donc on aime bien les passerelles. Et puis, évidemment que ce sera une belle course qu'on aura plaisir à suivre. 18 km 600 à plus de 8% de moyenne. Et bien voilà, les championnes pourront inscrire leur palmarès dans un col mythique du Tour de France.
Fanny, vous confirmez, vous nous l'avez dit dans vos reportages ce matin, le col de la Madeleine, c'est un monument dans le cyclisme
et dans
le Tour. Oui,
c'est un monument. Il y a Raymond Poulidor, Richard Virin, avec des noms qui parlent aux Français, Jonas Vingegaard, puisque Marion en parlait il y a quelques instants. Ce sont des grands noms du vélo et ça parle à tout le monde, le col de la Madeleine. Et je peux vous dire que quand vous allez voir les coureuses avant le départ, le matin, elles étaient hyper fières. Il y avait un peu de scène, elles avaient un peu peur, mais elles étaient dit, voyez, on fait comme les hommes et il n'y a plus de différence. Nous aussi, on s'attaque au mythe et il y a une réelle fierté vraiment de faire ce col de la Madeleine aujourd'hui. Ouais.
C'est une course très serrée, on l'a dit. C'est une course qui est très engagée aussi. Une course qui a été marquée par des grosses chutes. Marion Roux, dans la troisième étape, on a vu Demi Vollering qui est tombée. Sur la cinquième, il y a eu 9 abandons à cause de grosses chutes. On ne fait pas semblant sur ce tour-là.
Non, mais j'ai envie de dire que les chutes font partie malheureusement du cyclisme, hein, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On est sur la plus belle course au monde, donc certainement aussi avec un niveau de stress un peu plus élevé. Donc c'est un vrai sujet parce que bah, comme pour les hommes, le vélo va de plus en plus vite. Les cyclistes féminines vont de plus en plus vite. Elles nous offrent des moyennes juste incroyables. Et évidemment, quand ça tombe, bah, ça fait plus mal. Mais ce n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles tombent plus. Voilà, j'ai pas vu plus de chutes chez les femmes que chez les hommes.
Alors on est en ligne. Pas du tout, on est en ligne aussi avec Stéphane Delcourt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le manager de l'équipe FDJ Suez, l'équipe de Demi Vollering, donc qui est tombée lors de la troisième étape entre Lagassier et Angers. On a entendu hein, vous vos inquiétudes sur la sécurité des coureuses, mais cette course, elle est engagée. Vous le regrettez ou pas ?
Non, je le regrette pas. C'est normal que, comme le disait Marion, c'est normal. On est au Tour de France, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de stress, et c'est normal. Quand je parlais de sécurité, c'est aussi les cyclistes elles-mêmes, elles doivent faire très attention à laisser passer les motos de sécurité. L'organisation est quasi parfaite, hein. Et l'organisation doit faire face aux aménagements routiers dans toutes les villes. Donc je pense que on peut éviter certaines chutes, pas toutes. Ça fait partie de notre sport et les aléas de et l'effet de course le font aussi. Donc je pense qu'une responsabilité collective est importante et on peut en éviter une partie, mais ça fera toujours partie de notre sport.
Comment vous le qualifiez, ce tour-ci, ce tracé à l'équipe FDJ Suez ? Il est difficile ou pas ?
Non, il est génial. Il a été intense sur les deux premières journées en Bretagne. Il a été magnifique parce qu'on est passé sur nos terres, là où nous, l'équipe a commencé en 2006, où Marion portait nos couleurs à Poitiers. Donc c'était génial, une ferveur populaire qui tous les jours motive encore plus. Et après, il est hyper dense. On voit qu'il y a 10 filles aujourd'hui qui pourraient être en jaune ce soir. Je pense que le cyclisme féminin sera le grand vainqueur, quoi qu'il arrive, et qu'il va y avoir une très très grosse bataille ces deux derniers jours, et pas seulement aujourd'hui.
Terminer dans les Alpes, c'est un peu rude ? Ou c'est très excitant ?
Non, c'est excitant et c'est logique. On sait que les légendes s'écrivent, et quand vous parlez du palmarès du col de la Madeleine, voilà, on a envie aussi d'écrire le palmarès au féminin, et pour nous on a envie que ce soir en haut de la Madeleine, il y a le nom de Demi Vollering qui sont inscrits dessus après tant d'années d'attente. Ouais. Je pense que c'est tout à fait logique.
Tout est encore possible pour elle, pour Demi Vollering de la FDJ Suez. Elle est à 31 secondes de la première place ce matin.
Oui, on est vraiment dans les temps, dans le plan qu'on a fixé en début de saison avec elle. On voulait avoir cette force collective sur ce Tour de France. On a trois cyclistes dans le top 10, donc on peut jouer toutes nos cartes. On peut vraiment s'amuser et mettre en difficulté nos adversaires. Après, ça va être les gens qui vont parler. Il faudra une très grande Demi Vollering. J'espère qu'elle est remise à 100% depuis sa chute. Il faudra une très grande Evita Music, une très grande Juliette Labousse, une très grande Élise Chabé qui fait le show depuis le début du Tour de France aussi pour mettre en difficulté nos adversaires.
Dernière question pour vous, Stéphane Delcourt. Est-ce que sur ce tour, on a franchi un cap en termes de professionnalisation, en termes de montée en puissance des équipes, avec des structures de haut niveau maintenant ?
Oui, mais par exemple, je vais rebondir au sujet de tout à l'heure. Si il y a autant de densité, si les performances sont incroyables, c'est juste parce qu'on a donné les moyens à ces femmes de le faire. Ça, depuis l'arrivée du Tour de France, et je ne remercierai jamais assez à SO et Marion et l'UCI d'avoir structuré notre sport, on leur donne les moyens, on a un staff incroyable. Je pensais qu'on avait franchi un cap, nous, incroyable cet hiver. On a bossé comme des dingues, mais je m'aperçois en fait qu'on est une dizaine d'équipes à avoir bossé pareil, à avoir les mêmes moyens, et ce qui rend la compétition plus belle, plus stressante pour nous, parce qu'on aurait préféré un Tour de France où on aurait pris le maillot jaune le premier jour.
Ouais.
Mais voilà, comme je disais, aujourd'hui, le cyclisme féminin a franchi un cap. Maintenant, la machine est en route, il ne faut plus s'arrêter. On est très, très motivés. Et je sais qu'ASO nous accompagnera dans cette structuration pour que le cyclisme féminin devienne un événement incontournable de l'été des Français.
Merci Stéphane Delcourt, manager de la FDJ Suez. Vous avez du travail hein, aujourd'hui, la FDJ Suez première pour l'instant au classement par équipe ce matin. Marion Rousse, quand vous avez remporté le titre de championne de France sous les couleurs de Vienne Futuroscope, hein, c'est l'ancien nom effectivement de la FDJ Suez, l'équipe de Stéphane Delcourt, vous n'aviez pas toutes ces structures-là de haut niveau.
Oh là 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 là, non.
Et c'est d'ailleurs pour ça que vous arrêtez votre carrière très tôt aussi.
Oui, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même pratique du cyclisme. J'étais professionnelle et pourtant il fallait que j'aille travailler à côté pour gagner de l'argent. Donc, comme l'a très justement dit Stéphane, on leur a offert finalement simplement les moyens de pouvoir en vivre et de pouvoir en faire leur métier depuis 4 ans. On savait qu'il nous fallait une course de référence. Et la plus belle course au monde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est le Tour de France. C'est le Tour de France parce que tu t'adresses à un public de passionnés qui va regarder du vélo tout au long de l'année, évidemment, mais également à des gens qui ne vont pas forcément vraiment regarder du cyclisme, mais qui viennent sur le Tour de France parce qu'il y a une magie qui opère. Il y a la caravane, il y a le fait que ce soit un spectacle gratuit, populaire, le fait que tu puisses voyager à travers les paysages qu'on arpente. Et tout ça, finalement, eh bien, on a su prendre la même recette et la retranscrire au féminin, et ça a fonctionné tout de suite. Maintenant, ma plus grande fierté, c'est de voir les gens au bord des routes, aussi nombreux, et de me dire qu'ils ne font plus de différence entre le Tour Homme et le Tour de France Femme avec Zwift.
D'ailleurs, vous réitérez quelque chose qu'on voit sur le Tour de France Homme. Hein, aujourd'hui, tous les cyclistes, les amateurs, hein, ils vont pouvoir s'y lancer sur le même tracé que les pros cet après-midi. Et là, vous attendez des milliers de participants hein, aujourd'hui, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Le départ a déjà été donné. Ils seront 7000 participants au cœur d'une aventure grandiose hein, sur route fermée et chronométrée. Ils vont pouvoir et elles vont pouvoir eh bien faire exactement le même parcours, arriver au sommet du col de la Madeleine sur une étape de plus de 3500 mètres de dénivelé positif. Et évidemment, il y aura beaucoup de femmes également qui vont participer à cette étape du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est une nouveauté parce qu'on l'avait sur le Tour Homme depuis quelques années et c'est notre première fois pour les femmes. Et tous les candidats, tous les participants et participantes pourront vivre l'arrivée des championnes quelques heures après.
Vous le disiez, Marion Rousse, quand vous étiez coureuse cycliste professionnelle, vous ne viviez pas du sport. C'est quoi la situation financière aujourd'hui dans le peloton ? Est-ce que toutes les coureuses qu'on voit aujourd'hui dans le Tour de France Femmes, elles vivent du vélo ?
Oui, alors toutes celles qui sont en World Tour et en Conti vivent. Voilà, il y a l'Union Cycliste Internationale qui a mis en place un salaire minimum. Donc les filles, voilà, peuvent vraiment s'entraîner et faire de leur sport leur métier. C'est pour ça qu'on a vu que le niveau est de plus en plus homogène, parce qu'on leur a offert l'opportunité. Avant, ça pouvait pas fonctionner. Il y avait peut-être 5-6 filles qui étaient payées. Et les autres, elles devaient aller travailler. Donc forcément, c'est comme si on mettait des professionnels avec des amateurs. Les courses n'étaient pas forcément très belles à regarder parce que c'était tout le temps les mêmes qui gagnaient fatalement. Ouais. Donc les sponsors, déjà, on parlait pas de nous. Les courses ne passaient pas à la télé.
Justement, les sponsors, ils vous suivent maintenant ? Enfin, ils suivent les coureuses maintenant ?
Mais bien sûr. Mais c'est... Quand on voit les audiences qu'on fait sur notre Tour de France Femmes avec Zwift, évidemment que les sponsors sont ravis. La première année, il a peut-être fallu un petit peu les convaincre. Mmh. Et on avait vraiment envie d'avoir les mêmes maillots que pour les hommes, vraiment qu'il y ait une identité de Tour de France. Et donc les partenaires nous ont fait confiance la première année et maintenant ils sont aussi investis que pour le Tour Homme et les collectivités. Pareil, je me souviens à l'Alpe d'Huez l'année dernière, je me souviens cette année, quand on arrive à la Madeleine, quand on arrivera demain à Châtel, les collectivités nous disent tout le temps en réunion, écoutez, on a l'habitude de recevoir le Tour Homme et on veut vous dire qu'on recevra dans les mêmes conditions exactement la course femme. Et ça, c'est beau parce que maintenant, on fait vraiment plus de distinguo.
Là, on parle du Tour de France, on comprend que c'est un succès hein, aujourd'hui, mais en dehors du Tour, est-ce que le reste du circuit ne peine pas à exister aujourd'hui ?
Si, mais c'est pas que dans le cyclisme féminin, malheureusement. C'est vrai que nous, on est un peu le sommet de cette pyramide, on est le plus haut niveau. Mais c'est vrai que la base, elle reste très fragile parce que des courses amateurs sont difficilement... qui sont réalisé et créé par des bénévoles, mais on voit bien que nous, c'est pas dans un stade de route notre terrain d'expression. On a besoin des routes et les routes ne nous appartiennent pas. Et notre coût le plus important sur notre course, c'est la sécurité, parce qu'il faut évoluer sur route fermée. Et nous, on peut le faire parce qu'on est Armory Sport Organisation, qu'on est une organisation qui avons l'habitude de le faire, et on travaille avec la garde républicaine et heureusement qu'ils sont là. Mais c'est vrai que pour des organisateurs où c'est des bénévoles et où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, ça devient très compliqué. Et on l'a vu notamment cette année avec l'étoile de Bessèges. Voilà, c'est des gens qui font de leur mieux et on a besoin des petites courses justement pour pouvoir accéder au plus haut niveau et ne pas brûler les étapes.
Alors avec la professionnalisation.
Et on en parlait d'ailleurs justement avec la Fédération française de cyclisme hier.
Alors avec la professionnalisation également, les polémiques sont arrivées aussi. Si chez les hommes on parle beaucoup de dopage, là ces derniers jours chez les femmes on parle d'un dopage par l'extrême maigreur. C'est une des coureuses hein, qui a tiré la sonnette d'alarme, Cédrine Kerbaol. Elle sait de quoi elle parle, elle est nutritionniste de formation. Elle dit il y a un dopage par la maigreur en ce moment sur le peloton.
C'est bien que Cédrine...
Vous confirmez ça, Marion Rousse ?
Non, je le confirme pas. Ou c'est, je pense que Cédrine Kerbaol est mieux placée de moi que pour voir un peu les effets dans le peloton. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que Cédrine a alerté pour autant pour les femmes que pour les hommes.
Ouais.
Voilà, je pense qu'elle voulait mettre en garde aussi parce qu'on est là dans un rôle pour créer des vocations pour les petites filles et montrer qu'on n'a pas besoin d'être d'une maigreur extrême pour performer et que surtout même si on était sportive de haut niveau, il fallait prendre soin de sa santé parce qu'on n'en avait qu'un. On n'en avait qu'une de santé. Donc, je trouve que le message est beau à faire passer.
Mais ça paraît contradictoire vu de l'extérieur. On se dit, mais ces sportives de haut niveau, elles s'affament aujourd'hui. Il y en a certaines qui ne mangent pas assez alors qu'elles font des performances.
J'espère pas, parce qu'il y a quand même ça s'est vachement professionnalisé. Donc, il y a il y a des diététiciens, des diététiciennes qui sont vraiment rémunérés dans ces formations. Donc non, je ne l'espère pas.
Fanny Lechevestrier, on a parlé effectivement beaucoup de dopage hein, sur les Tours de France et les autres courses cyclistes hommes. Aujourd'hui, le dopage féminin, c'est ça, c'est l'extrême maigreur de certaines coureuses.
Je ne sais pas si c'est vraiment du dopage. Après, c'est le culte de la performance aussi qui mène à des extrémités. Je ne suis pas sûre qu'on puisse employer le terme de dopage. C'est de l'anorexie, c'est des troubles alimentaires qui sont dans des milieux, effectivement, des sports d'endurance. C'est le cyclisme, ça peut être le marathon, voilà, tous les sports d'endurance où vous devez avoir des poids légers notamment, c'est l'image aussi qu'on a renvoyée pour monter des cols importants. Et effectivement, je pense que les équipes professionnelles, ce sont aujourd'hui les grosses structures attaquées à ce problème de l'alimentation. C'est sans doute un peu moins vrai parce qu'il y a encore moins de moyens dans une seconde catégorie d'équipe. Et c'était aussi le message de Cédrine Kerbaol de dire, oui, vous allez voir athlète, telle coureuse qui a tel physique, mais attention, c'est son physique à elle, c'est pas le vôtre et il faut pas que vous perdiez 15 kilos pour pouvoir devenir et monter comme elle. C'était Jonas Abrahamsen, le Norvégien qui avait alerté d'ailleurs dans le peloton masculin et il avait dit, moi on m'a affamé pendant des années, j'ai perdu 15 kilos, j'avançais plus sur mon vélo, puis aujourd'hui j'ai repris 10 kilos et comme par hasard, on le voit souvent en échappée. Donc voilà, c'était aussi mixer cette réalité, de dire qu'il n'y a pas qu'un seul type, un seul profil de coureuse. Et après, je ne suis pas sûre que le terme de dopage soit le bon mot.
Mais Marion Roux, est-ce qu'on peut imposer une masse grasse minimum, par exemple, aux coureuses, ou ça, c'est pas de votre sort ? C'est dernière question.
Alors, il y a des docteurs, évidemment, qui sont présents dans les équipes et qui surveillent tout ça. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que chaque corps réagit différemment. On parlait d'Abrahamsen qui nous a dit également sur notre plateau qu'il avait pris plus de 15 kilos. Donc, faut bien aussi noter que c'est pas parce qu'on va être maigre qu'on va avancer plus vite. Voilà, il nous faut quand même de la force. Donc, on a des poids de forme. Les coureurs et les coureuses qui se connaissent bien, justement, savent à quel poids limite ils peuvent aller pour avoir et continuer à avoir de la force et de pousser sur le vélo. Parce que le but, c'est quand même de gagner des courses et d'être bien. Donc tout ça quand même est très réglementé, même si Cédrine Kerbaol a raison de l'alerter et de promouvoir un message plus pour les gens qui vont nous regarder et les avertir. Mais encore une fois, chaque corps réagit différemment.
Merci beaucoup Marion Roux, directrice du Tour de France Femmes. Merci aussi à vous Fanny Lechevestrier, notre journaliste sportive qui nous fait vivre ce Tour de France Femmes. L'étape du jour, ça part donc aujourd'hui de Chambéry direction Saint-François-Longchamp pour finir par le col de la Madeleine. Merci à toutes les deux et bonne fin de course.
France Inter présente.
Savez-vous que la grande exploratrice Ella Maillard a fait du ski en Asie centrale à 5000 mètres d'altitude ? Allez, c'est parti ! Touchous !
Les Odyssées.
Le podcast d'histoire et d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand Besançon.
Harriet Tubman, la résistante qui a sauvé 300 esclaves et l'étonnante voyageuse Ella Maillard. Bonnes vacances à toutes et à tous ! Et surtout, gros bisous !
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter. Un podcast par jour, des acquis pour toujours.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE,
Grandir avec assurance.
Et la météo, c'est avec vous, Magali Rochereau. Un ciel nuageux ce matin à l'est.
Et oui, Amélie, c'est couvert des Alpes au nord-est avec des averses fréquentes sur le relief des Alpes et un temps pluvieux le long de la frontière belge. À l'arrière, des Hauts-de-France, au nord des Alpes et sur l'Auvergne, un ciel variable se met en place avec quelques ondées possibles et le soleil s'impose dans le bleu mouvant du sud-ouest, comme sur l'ensemble de la moitié ouest au fil des heures après un début de journée plutôt gris. Quelques averses quand même sont à prévoir côté Pyrénées et Mercantour et puis Mistral, Tramontane et vent d'ouest sur les côtes varoises sont toujours d'actualité avec des rafales autour de 50 à 60 km par heure.
Et les températures restent fraîches.
Oui, à votre réveil, les minimales affichent 8 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 dans le sud, 17 à Lyon comme à Bordeaux et de 19 à 22 degrés en bord de Méditerranée. Plus tard dans la journée, Météo France prévoit 8 petits degrés sur le col de la Madeleine pour les cyclistes du Tour de France féminin, 19 à 22 sur les bords de Manche, de 20 à 26 sur le nord du pays, 23 degrés au-dessus de la Seine à Paris, de 24 à 30 plus au sud et jusqu'à 30 à 32 dans le sud-est, 31 sur les plages de la Croix-Valmer et 32 pour Bastia et pour Nîmes.
La météo signée Magali Rochereau, merci à vous. Il est 8h39, dans quelques minutes ce sera la revue de presse d'Angèle Châtelier. Mais tout de suite, Malik Djoudi fait monter la température de quelques degrés cet été avec son titre Exit, sorti sur son album Vivant et en playlist d'Inter, bien sûr. Malik Djoudi. Tout de suite, la revue de presse.
France Inter, Amélie Perrier, le 6-9.
Et c'est Angèle Châtelier qui lit les journaux pour nous ce matin. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Ce matin, on tente de dormir.
Alors que certains profitent de nos insomnies, c'est à la une de Libération. Insomnie, un business de rêve. Un business qui peut facilement trouver ses adeptes puisqu'on apprend que notre temps de sommeil a été réduit d'une heure et demie par nuit par rapport à il y a 50 ans. Je ne sais pas vous Amélie, mais selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 73% des Français se réveillent aussi en moyenne deux fois par nuit. Résultat, la qualité de nos nuits constitue un eldorado lucratif que dépeint ici le quotidien. Alors oui, il y a bien les conseils classiques pour passer une bonne nuit, pas d'écran avant de dormir, pas trop d'alcool et une attention particulière à ne pas boire trop de café. Mais d'autres misent sur des hôtels avec suite, sommeil réparateur, rideau occultant, kit dodo fait d'huiles essentielles, lit intelligent pour adapter la température. Dans la Marne, il existe même une retraite sommeil à 1258 € la nuit pour deux.
Ah mais quand même, oui.
Au programme, un zeste de mélatonine, massage à la bougie, drap doux et autres masques en soie. En même temps, difficile de dormir et de rêver face à l'actualité et à ses vagues. Attention aux noyades, nous dit d'ailleurs le Parisien ce matin qui alerte alors que le nombre d'accidents dans l'eau s'élève déjà à 702 depuis le début de la saison.
Mais les vagues ne s'agitent pas qu'en mer.
Dans le monde aussi, autour du commerce mondial, notamment à la une du journal Le Monde justement. Commerce mondial mondiale, l'ère de la loi du plus fort, alors que Donald Trump a signé un décret imposant une hausse des droits de douane à des dizaines de pays dans le monde. L'ère de la loi du plus fort, dans un air parfois irrespirable. Difficile de respirer en voyant ce titre d'ailleurs. Les Gazaouis risquent leur vie pour un kilo de farine, constate Antoine Renard dans les colonnes du Monde. Il est directeur du programme alimentaire mondial en Palestine. En parcourant le magazine Society, je me dis que certains ont parié dessus. Dans un article, on en apprend plus sur une plateforme de paris en ligne qui propose par exemple de miser sur la prochaine guerre. Née en 2020 dans l'univers des cryptos, la plateforme appelée Polymarket invite ses dizaines de milliers d'utilisateurs à parier sur l'actualité. Alors ici, chacun peut acheter des parts d'un événement dont le prix reflète le ressenti du marché. Parmi les questions posées par exemple, on a « Est-ce que Donald Trump va remporter le prix Nobel de la paix 2025 ?» À vous de me dire. Un utilisateur confie avoir gagné 2 000 $ sur une mise de 300 en pariant sur le fait qu'Israël allait attaquer l'Iran. Interdite en France, la plateforme a gagné en popularité lors des élections américaines de novembre dernier. Depuis, elle a officialisé son partenariat avec X pour lancer un marché prédictif sur le réseau social d'Elon Musk quand l'actualité du monde devient un jeu d'argent. En parlant d'argent, l'hebdomadaire Le Point dresse le portrait cette semaine de Youssef Amzouz, à qui l'on a promis un emploi au revenu mirobolant, mais il s'est retrouvé dans un centre d'arnaque en Birmanie, une cité du crime au faux air de Las Vegas, décrite par ce Marocain de 27 ans comme une villa transformée en prison. Là-bas, il a été torturé, contraint et forcé d'arnaquer des milliers de victimes via un ordinateur ou un smartphone. L'arnaque paraît simple, un numéro WhatsApp, une couverture, du rêve, puis de la manipulation émotionnelle sur fond de crypto-monnaie. Selon l'Institut des États-Unis pour la paix, entre 150 et 200 000 personnes travailleraient dans ce qu'on appelle les scam centers en Birmanie pour des milliers de victimes. Des arnaques qui peuvent aussi parfois se dérouler juste en bas de chez soi. Revoilà les arnaqueurs au bon taux, nous dit Le Parisien, qui rappelle cette mise en scène bien rodée que l'on peut voir dans les quartiers touristiques de la capitale. Un bonneteur manipule des gobelets, un complice fait semblant de jouer et de gagner, et un joueur mis en confiance mise son argent et perd. Selon la direction centrale de la police judiciaire, les gains peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. En parlant d'arnaque, vous vous souvenez peut-être de ces chiffres, Amélie. 2,3 millions d'euros, c'est la somme collective perdue par les fans d'Oasis, victimes de la vente de faux billets des très attendus concerts du duo britannique. Alors que la tournée d'Oasis bat son plein, la reformation la plus lucrative de l'histoire, le magazine Télérama s'intéresse justement dans son numéro d'été à où va l'argent de la musique. Alors que l'industrie connaît une croissance mondiale de 4,8% en 2024, en photo de une de cet article, Amélie, je vous laisse deviner.
Bien sûr,
bien sûr. Une certaine Taylor Swift, milliardaire du streaming, qui rapporte des fortunes en concert, mais ce qui est bien loin d'être le cas d'autres artistes. 90% d'entre eux recevraient même moins de 1000 euros par an sur les plateformes de streaming. Alors aujourd'hui, c'est la scène qui est devenue le gagne-pain des artistes. Mais jusqu'à quand, se demande Télérama, qui à travers une série de questions interroge le secteur de la musique dont l'économie est en pleine mutation. Un secteur qui pourrait être sauvé par exemple par les super fans prêts à dépenser toujours plus pour leurs stars préférées. Vinyles différents à collectionner, t-shirts, places de concert. Le super fan, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour les labels. Alors peut-être que vous, Amélie, vous n'êtes pas fan de Taylor Swift ou d'Oasis, mais de musique celtique.
Ah, mais
que
oui.
Vous irez
mais
ce week-end au Festival Interceltique de l'Orient. Festival mis à l'honneur dans le Télégramme qui nous parle aujourd'hui des bagadous, temps fort du premier week-end du festival. Alors la volonté d'autant plus cette année, c'est ouvrir ses concerts à un public plus large, peut-être moins averti à ses orchestres bretons. Le Festival Interceltique de l'Orient qui fait aussi honneur cette année à ses cousins d'Amérique, nous raconte Ouest-France. Pour la première fois, Chance Powell et George Brown, deux musiciens du Braze America Collective, ont fait le déplacement en Bretagne. Nous aimons la fusion des genres, décrivent-ils dans les colonnes. Elles sont les couleurs inspirantes d'une vaste toile. Eh bien, c'est peut-être ça, peut-être grâce à la musique que l'on arrivera à dormir.
Merci et Kenavo.
Angèle Châtelier. France Inter, il est 8h48, l'heure de la tribune des critiques. Ils sont tous les deux en studio après avoir passé la semaine à lire, visionner des films, visiter des expositions pour mieux en débattre ensemble et partager leur coup de cœur avec nous ce matin. Guillaume Loison, vous êtes critique cinéma à l'Obs, et Joseph Goun, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Loison, je commence avec vous. Vous avez vu cette semaine Transamazonia, un film réalisé par Pia Marais.
Donc un film signé par une réalisatrice sud-africaine qui a un parcours très éclectique. Elle a été formée à la photo, à la sculpture, à Londres, Amsterdam et Düsseldorf. Et elle a fait des films plutôt en Allemagne au départ, Les Désobéissants en 2007 et À l'âge d'Hélène en 2010 avec Jeanne Balibar. Et là, donc, son quatrième film, Transamazonia, se déroule dans la jungle, comme son nom l'indique. Et c'est une sorte de remake un peu lofi de La Forêt d'Émeraude de John Boorman. Donc, c'est à peu près les mêmes enjeux, c'est-à-dire la confrontation entre donc, une tribu autochtone qui veut préserver son territoire et les ouvriers d'une scierie qui, justement, veulent mordre un peu sur le territoire des Indiens. Et au milieu, il y a une sorte de zone tampon qui est incarné par donc le gourou d'une sorte de mini-secte qui instrumentalise sa fille, ou ce qu'on imagine être sa fille, qui est la seule rescapée d'un crash aérien dans la jungle.
Et justement, à travers le personnage de Rebecca, la réalisatrice Pia Marais opère une véritable plongée au cœur du microcosme très particulier de cette jungle amazonienne, Joseph Goun.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est quand on regarde ce film, au bout d'un moment, on se demande si on n'est pas dans une géographie plutôt que dans un film, en tout cas dans un territoire, dans une carte, où on a l'impression que les enjeux se déplacent en permanence autour de ce morceau de terre, enfin de ce morceau de ce territoire. Oui. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a touché, c'est le film est porté par cette histoire entre ces deux personnages, le père et la fille. La fille est rescapée d'un crash d'avion qu'on voit au tout début, puis le film en fait se déroule quelques années après le crash. Et donc, comme rescapée, elle est miraculée, et donc comme miraculée, elle est supposée guérir les autres. Donc on est dans cette idée qu'il y a un personnage qui est un peu comme ça, qui distille un peu une sorte de bien-être, en tout cas qui arrive à guérir. Et le père, la figure du père, instrumentalise ça. Le père est aussi une figure blanche, masculine, qui impose un peu son idée de ce qu'est sa fille, mais aussi son idée de ce que sont les gens qu'il essaie de protéger et ceux qu'il essaie de contrer. Donc on est clairement dans un récit qui raconte ces interactions-là, ces forces-là, et la façon dont on essaie d'imposer des croyances dans un endroit qui n'est pas forcément réceptif, ou en tout cas qui est peut-être trop réceptif jusqu'à un peu, comment dire, devenir de la pensée magique.
Oui, c'est ça. C'est aussi un film sur la jungle et sur la mystique de la jungle, sur ce que la jungle a tendance à ingérer de nous et de ce que aussi l'humanité a tendance aussi à la modifier, justement à la produire une sorte de transition, de changement profond. Et il y a des scènes très très simples, mais à la fois très parlantes, qui montrent justement cette espèce de porosité dans le film, ce tiraillement permanent entre le besoin de colonisation, l'exploration de la jungle, et le fait que, voilà, en défrichant ce territoire, on a tendance aussi à commettre une sorte de sacrilège. Et il y a des plans, notamment un plan extraordinaire dans le film, qui suit une route fraîchement construite et qui montre toute l'ambiguïté de la situation. Voilà, d'un côté, on voit ce territoire totalement mystérieux, foisonnant, sensuel, et de l'autre, cette route est vraiment qu'une sorte de balafre. Et les personnages sont toujours un peu voilà, sur une ligne de crête, quels qu'ils soient, c'est-à-dire aussi bien les autochtones qui peuvent se montrer très agressifs, mais aussi les colonisateurs qui finalement, des fois, arrivent à se remettre en question. Et au milieu, ces deux personnages qui sont aussi dans un tiraillement permanent. On n'arrive jamais à savoir qui instrumentalise l'autre. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant.
Il y a cette ambiguïté, elle est tout le temps dans le film. Et moi, je la vois notamment dans... Il y a quelques scènes, pendant ces moments un peu de culte, qui sont des scènes chantées. Et on voit ces gens d'Amazonie, enfin de la forêt, qui sont en train de chanter des morceaux qui viennent directement du gospel américain. Et on mesure là toute l'ambiguïté et toute la distance, en fait, entre les intentions des uns et les désirs des autres.
Oui. Ce qui est vraiment intéressant, justement, c'est l'ambiguïté des personnages et ça crée aussi un mystère dans le film qui court tout au long du film.
Les personnages s'inversent en permanence, j'ai l'impression, oui. Et qu'on ne sait plus exactement quelle est l'identité des uns et des autres et que tout se révèle plus ou moins.
C'est-à-dire que voilà, la faiseuse de miracles, on imagine qu'au départ c'est une instrumentalisation pure et simple. Et puis finalement, quand même, malgré tout, il y a quelques miracles qui se produisent sans explication nette. Donc le surnaturel surgit quand même un petit peu. Et de la même manière, le personnage du père témoigne aussi d'une ambiguïté et d'une humanité assez puissante. Voilà, c'est un personnage finalement très touchant.
Le père interprété par Jérémy Chido en duo avec Elena Zengel dans le rôle de Rebecca. C'est le film Transamazonia, réalisé par Pia Marais. C'est sorti ce mercredi au cinéma. Allez, on passe à vos coups de cœur de la semaine, messieurs. Et ce matin, Joseph Ghosn, vous nous recommandez une lecture complètement estivale.
Comme on est encore au temps de la plage, mais que certains reviennent et d'autres partent, j'imagine, mon coup de cœur, c'est une anthologie, le grand livre de la littérature de plage. C'est une sorte de, oui, c'est une anthologie, une compilation avec des textes très différents qui se déroulent dans des contextes balnéaires. Il y a notamment un très très bel extrait des Dimanches d'août de Patrick Modiano qui se déroule à Nice, et donc avec cette ambiance de plage et de mer pendant le mois d'août, comme on y est quasiment. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale de lire ce livre et de le prendre avec soi sur la plage.
Mais oui, merci Joseph. Et en tant que grand cinéphile que vous êtes, Guillaume Loison, vous aviez envie, vous, de proposer non pas un, mais deux films dans le genre estival. On n'est plus exactement sur la plage, Guillaume.
Alors moi, mon coup de cœur, effectivement, c'est aussi pareil, un genre un peu estival, puisque ce sont deux films d'horreur espagnols. On a souvent tendance à voir des films d'horreur l'été. Deux films d'horreur espagnols qui sont donc réunis par Carlota dans un coffret donc, qui sort en Blu-ray, qui témoignent d'une époque très intéressante. Les années 70 en Espagne, donc c'est la fin du franquisme. Et ces deux films, donc Une bougie pour le diable de Gino Martín, donc un film de 73, et Poupée de sang de Carlos Puerto, film de 78, et qui mettent en scène justement ce franquisme un peu croulant, un peu dégénéré, donc à travers des films qui sont clairement des films de cinéma bis, donc qui reprennent donc les grands arcs narratifs de Psychose, de Rosemary's Baby notamment. La pépite absolue, c'est vraiment Une bougie pour le diable. Donc ça raconte, c'est un peu entre Psychose et L'auberge rouge, et ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont vraiment des personnages franquistes absolus, deux sœurs un peu collées qui écarissent des touristes qui sont vraiment dopés aux idéaux des années 60. Et donc voilà, ça montre à la fois les désirs refoulés du franquisme et aussi un changement d'époque irrémédiable.
Le coffret Terreur ibérique sorti par Carlota Film comprend, vous l'avez dit, les films cultes Une bougie pour le diable de Gino Martín et Poupée de sang de Carlos Puerto en version restaurée pour des soirées canapés horrifiques de très haute qualité. Merci Guillaume Loison, merci Joseph Ghosn.
Merci.
Merci Amélie.
On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine.
Le 6-9 sur France Inter.
Quelle joie de vous avoir avec nous, Emma Becker, cet été. Bonjour Emma.
Bonjour.
Vous prêtez votre plume à nos matins d'été pour les jolies vacances d'Emma. Aujourd'hui, une envie de parc aquatique.
Longtemps, j'ai vu passer, dans l'azur sans mélange au-dessus de la plage de la Nartelle, ces grands oiseaux blancs prolongés d'une traîne couleur de feu, avec ces lettres. Les enfants plissaient les yeux, annonçaient Aqualand. Mon père tapait du poing dans le sable. Moi vivant, vous ne mettrez jamais les pieds dans ce coupe-gorge. Pourquoi, papa ? Demandait immanquablement l'une de nous lorsque nous passions en voiture au ras du parc aquatique. Parce qu'il n'y a que des voyous là-dedans, des voyous avec des boutons dans le dos et des verrues plein le pédiluve. Ce qui expliquerait peut-être que je n'ai jamais fait pour moi-même l'expérience de ce parc aquatique. Sitôt que je voyais apparaître les boucles folles des toboggans sur la D559, j'étais envahie de la même convoitise craintive qu'en frôlant n'importe quel lieu de perdition. Ensuite, durant une courte période, j'étais trop vieille. Il a fallu, pour redevenir en âge, que j'aie des enfants et qu'une année, Isidore sache lire et qu'il m'attrape l'élastique du maillot quand passe un grand oiseau blanc avec une traîne couleur de feu. « Maman, on y va ?»« Moi vivante !» me suis-je entendue réciter et puis je me suis reprise. Ce que j'attendais toutes ces années et avec ce projet de devenir mère, n'était-ce pas tout simplement une bonne excuse pour aller me fondre à cette faune douteuse avec le prétexte d'un enfant à distraire ? Après avoir entendu ces gens des années durant exulter en rentrant de la plage, après avoir reniflé de loin leurs effluves païennes de chlore et de churros, après les avoir méprisés et enviés, voilà que s'offrait enfin, en la personne de mon aîné, l'occasion de pousser les mêmes hurlements de jouissance que les autres, de me vautrer dans la même autre eau chaude, brasser quotidiennement par, les chiffres sont de 2018, 10 000 pieds aux ongles jaunes.
Vous voilà donc, Emma, votre fils et vous, un matin, devant la boutique de souvenirs.
Boutique idéalement placée à l'entrée comme pour provoquer le premier caprice. Dernier endroit de civilisation. Après quoi, c'est la foire d'empoigne que les parents connaissent bien et à laquelle ils se sont préparés 5 minutes le temps de faire enfiler leur slip aux gosses. Partout où on peut faire plaisir aux enfants, c'est la même sensation de tournis, le même dégoût d'être là avec tous ces gens et la même rage d'en avoir pour les 200 balles que vous coûtera la journée. On se sent à la fois grêle et gras dans ce troupeau humain, avec pour panorama les épaules tachées d'acné d'un groupe de lycéens. On se voit manifester dans la mêlée en fin de toboggan une hargne mesquine pour attraper la bouée en premier et s'enfuir vainqueur vers la prochaine interminable file d'attente en plein soleil, où l'on rôtit au point de ne plus pouvoir que bégayer « c'est long, putain de merde !» On abattrait ceux qui devant ont un peu l'ombre du palmier. Et puis il y a les familles que l'on maudit d'avoir eu la même idée que nous. Franchement, venir là avec 5 gosses, non mais regardez-moi comme ils sont vilains en plus, pense-t-on en regardant méchamment quelqu'un qui pense de nous exactement la même chose au même moment. C'est sûr, parce qu'à part les enfants, tout le monde est moche et fragile et méprisable avec une bouée à 2 places dans les mains et cette rage de se grouiller de s'amuser. Eux, vous, moi, mais surtout, surtout les adultes sans enfants. Alors ceux-là, on les soupçonne en pensée de toutes les tares mentales, eux qui pourraient chiller au bord de la piscine sans autre contrainte que d'aller déboucher une bouteille de rosée.
Mais non, ils sont là.
Ils sont là à croire que c'est préférable de patienter 1h30 pour un toboggan familial dont les papas ressortent avec une couille qui pointe et les mamans remplies d'eau par le bas jusqu'aux oreilles. Sauf qu'on n'a pas le choix, nous. C'est toute la différence. Notre dignité réside précisément dans notre soumission à nos enfants. D'ailleurs, où sont-ils, ceux-là, nom de Dieu ? C'est quand même pour eux qu'on est là, comme des abrutis, au lieu d'être à la plage, comme des abrutis. Et si c'était eux, en fait, le problème ? Au bout du compte, ne sont-ce pas ces adultes sans enfants qui ont raison ? Eux réparent l'enfant à qui on a toujours dit non. Ils peuvent, eux, faire les seuls toboggans qui valent la peine de venir s'empitrer en ces lieux. Mais nous, quelle récompense est-on en droit d'espérer, à part une gueule de 3 pieds de long dans la voiture du retour parce qu'on n'a pas acheté la photo souvenir où l'enfant ferme les yeux et papa a l'air mort ? En ma qualité de contributrice au rayonnement du Var, j'ose une idée. Soit on arrête avec les pubs pour Aqualand, soit on arrête les adultes sans enfants en pleine saison, ça perturbe les parents qui bossent.
Merci Emma Baker, on retrouve vos jolies vacances demain matin.